Bien.
Bon, je vous laisse.
Bien. Alors, merci de l'invitation. Alors, ça me fait toujours plaisir de venir aux universités de Sauvons le Climat. C'est une grande famille, des gens qui ont envie de penser rationnellement un problème qui concerne l'ensemble de l'humanité. C'est devenu suffisamment rare pour qu'on puisse en apprécier la compagnie. Ce que je vais vous dire d'abord, je ne vais pas vous révéler des secrets d'État, des bruits de couloir, des choses qui se disent ou qui ne se disent pas au niveau des décideurs politiques, au niveau des décideurs industriels. Je vais simplement vous faire part d'une expérience qui est la mienne, qui est donc en conséquence de quoi limitée, mais qui est une expérience de 25 à 30 ans. Alors... Ou bien le truc que j'ai dans la poche, on peut peut-être le brancher. Ou bien...
Non, celui-là on ne sait pas faire.
Bon, alors pourquoi... Ah d'accord, ok. Et là c'est bon ?
Faut peut-être... Ah, non, il est peut-être arrêté. Attendez. Ou l'autre.
Est-ce qu'on peut monter le micro là aussi ?
Bon. On peut monter l'antenne. Ah bah voilà. C'est bon ?
Ouais.
Alors je recommence depuis le début ? Non, c'est bon.
Non, je n'ai pas été assez rapide, pardon.
Bien joué. Ça part dans l'autre sens. J'ai une certaine expérience de ce qui se passe comme ça, donc...
Bon.
Bien, donc ce que je vais donc vous essayer de faire, c'est de vous faire perdre une expérience de 25 à 30 ans, d'une activité qui était à la fois une activité de chercheur et d'enseignant. C'est pour ça que je reste aussi toujours très attaché à la question de la formation. Et d'un enseignant-chercheur qui a, pendant à peu près une trentaine d'années, eu aussi une activité de conseiller dans l'industrie. Et depuis que je suis au commissaire, une activité de conseiller auprès des décideurs, c'est-à-dire auprès du politique. Donc c'est cette expérience dont je vais vous faire part, sans évidemment vous donner ni des secrets d'État, ni même la teneur des avis que je peux donner, et pour des raisons que j'essaierai d'expliciter. Alors... Je vais d'abord faire un point qui a l'air un peu général, mais je vous demande un peu d'attention. Si je parle trop vite, vous me le dites. Ça peut être un peu général, je crois qu'il est essentiel, et c'est d'autant plus essentiel que ça devient plus rare, de distinguer le croire, le savoir et l'agir. Alors si on s'en tient aux ordres pascaliens, le croire, le savoir et l'agir sont clairement distincts. Cela vaut pour la sphère de la décision publique, et cela vaut également pour la sphère de la décision d'entreprise. Et par ailleurs, s'il est difficile de soutenir que les décisions doivent être découplées de l'approche rationnelle qu'instruit la science, il est tout aussi difficile de prétendre réduire les décisions concernant l'humain à une seule démarche rationnelle. Ainsi, le savoir et l'agir doivent être clairement distingués, et le savoir doit éclairer l'agir, mais ne saurait prétendre être la source exclusive de légitimité de la décision. De nos jours, le problème n'est pas tant dans le trop de science que dans l'oubli de science. C'est vrai pour la décision politique, des décisions majeures sur la politique énergétique, sur l'agriculture, sur la politique de santé, sont parfois prises sans que la communauté scientifique soit même consultée. C'est vrai aussi pour les politiques industrielles, avec le primat donné à la finance sur la technique, dans les instances décisionnelles. De rachats successifs en démantèlement éclair et en vente par appartement, il est de plus en plus difficile de parler d'un portefeuille technologique d'une entreprise. Ce glissement du matériel vers l'immatériel, de la réalité physique vers la stratégie financière, provoque un dommage collatéral grave, la perte de la notion d'hystérésis, et l'indifférence au concept d'inertie temporelle. On peut détruire en un an un ensemble de compétences qui a mis 20 ans à se construire et qu'il faudra éventuellement 20 ans pour reconstruire. Le paradoxe est que ce découplage entre le savoir scientifique et la décision politique survient au moment même où la science enregistre ses plus brillantes réussites dans la maîtrise du monde et au moment même où la complexité des décisions à prendre exigerait au contraire qu'elle puisse se servir de boussole dans la jungle. Cette technicité croissante de nos sociétés, tant dans la vie quotidienne que dans la vie professionnelle, associée à une spécialisation accrue des disciplines scientifiques, porte en elle la nécessité d'avoir recours à une expertise pour guider les décisions, que ce soit les décisions de l'entreprise ou les décisions du politique. Le prince n'a jamais vraiment été philosophe. Mais il fut un temps où Edison était à la fois le génial inventeur que l'on sait et un grand capitaine d'industrie. Nous vivons le paradoxe suivant. Plus notre industrie dépend de connaissances scientifiques très avancées, plus notre vie de citoyen dépend de technologies de pointe, pour l'énergie, pour le transfert, pour le transport, pour la santé, et moins nos dirigeants sont des acteurs directs de cette innovation scientifique et technique. De telle sorte que les tentations d'antan, la fascination pour la prouesse technique au mépris de sa pertinence économique, ou le saint-simonisme comme mode de gouvernement, tentation que le XIXe siècle a parfois illustrée, cèdent le pas aujourd'hui devant les dangers tout aussi inquiétants liés à l'ignorance, ou pire, à la connaissance superficielle de la science moderne. La fascination du court terme dans le monde industriel et l'idée délétère qu'on peut arrêter puis reprendre un processus d'innovation comme on allume et on éteint une lampe est potentiellement mortel pour tout processus de création technologique. Ceci dit, maintenant je vais me poser la question de quelle est la situation des avis à donner. On est dans une situation assez curieuse où tout le monde peut donner un avis à la condition expresse de ne pas avoir de compétences. Plus grave encore, le divorce des élites politiques et plus sournoisement des faiseurs d'opinion que sont les journalistes, d'avec la connaissance scientifique, est à la base d'une défiance du politique et du citoyen vis-à-vis de la science. Au moment même où la dimension scientifique et technique des décisions à prendre s'accroît, rendant de plus en plus nécessaire le recours à des experts et à des conseillers scientifiques, on voit poindre l'illusion qu'on sait bien assez de science quand dans sa lointaine jeunesse, on a aligné quelques pages de calcul. Et c'est le plus grave encore que tout un chacun a un avis à donner à la condition expresse de ne pas avoir de compétences pour le faire. De telle sorte que dans le débat public, tout le monde pourra avoir un avis sur le nucléaire sauf les physiciens, sur les vaccins sauf les médecins, sur les OGM sauf les biologistes, sur le gaz de schiste sauf les géologues. La nécessité de l'expertise et sa concomitante d'évaluation voire disqualification pose réellement question. D'où la question du rôle du conseil scientifique, du conseil du scientifique. Comme le rôle de conseil du scientifique est d'aider à la décision, c'est-à-dire très souvent d'aider à résoudre des questions aux conséquences sociales ou industrielles immédiates, il s'ensuit que sa fonction doit naturellement être celle d'un lien entre la recherche fondamentale et la recherche finalisée. Malgré l'interpénétration des connaissances des sciences pures et des sciences appliquées, il reste commode pour la clarté du raisonnement de distinguer les conseils qui concernent le savoir en soi, comprendre pour comprendre, et ceux qui concernent les applications du savoir, comprendre pour faire. En ce qui concerne les destinataires des conseils, il est commode de distinguer par leurs objectifs le bien public ou le profit de l'entreprise, avec toutes les gradations entre les deux types, et notamment dans le cas des entreprises de services publics. La légitimité de la décision ne repose pas uniquement sur la pertinence scientifique du conseil. Dans le cas du conseil à l'industriel, sur la stratégie scientifique et technique de l'entreprise, la pertinence scientifique n'est qu'une composante du choix, l'aspect économique jouant bien évidemment un rôle majeur. Dans le cas du conseil aux politiques, la difficulté est plus grande encore. La légitimité de la décision politique n'est pas seulement une question de pertinence scientifique et technique. On pourrait espérer que la pertinence, ou au moins la faisabilité technique, soit un prérequis de la décision politique. Mais comme la décision politique doit viser au bien public, le scientifique doit dire au politique si les décisions qu'il va prendre, d'un point de vue scientifique, vont dans le sens du bien public. Je vous invite à décliner ce genre d'énoncé dans les domaines qui concernent particulièrement souvent le climat. Mais donc, le scientifique doit dire aux politiques si les décisions qu'il va prendre d'un point de vue scientifique vont dans le sens du bien public, mais il n'a lui-même, en tant que scientifique, aucun droit supplémentaire par rapport à tout autre citoyen à décider ce qu'est le bien public. On peut énoncer quelques bonnes pratiques dans la fonction du conseiller. Décider, c'est choisir. Le conseiller ne doit pas se substituer au décideur. En conséquence de quoi, il ne doit jamais présenter une seule option, mais un choix entre des options possibles que le décideur classera avec sa propre métrique. Le conseiller doit donner une évaluation de l'état des lieux du point de vue scientifique. Compte tenu de la complexité des sujets traités, il est souhaitable que le conseiller donne en fait une synthèse d'une expertise collégiale. Et enfin, le conseil doit conduire à une procédure décisionnelle. Il doit donc être clair et suivre un algorithme rigoureux. Exclure ce qui n'est pas possible, prioriser entre les décisions possibles en fonction des difficultés à prévoir, et enfin documenter les options les plus prometteuses pour conduire à une décision opérationnelle. Ces règles simples, si elles étaient toujours convenablement appliquées, et notamment dans le cadre du conseil aux politiques, éviteraient la confusion trop fréquente entre les objectifs et les verrous technologiques, conclusion des plus fâcheuses quand on doit définir des programmes de recherche prioritaires. Alors maintenant, je vais vous parler un peu des paradoxes du conseiller et des exigences apparemment contradictoires de transparence et de confidentialité. Le conseiller scientifique doit faire face à quelques situations paradoxales dont la solution n'est pas toujours évidente. Elles ont trait à la publicité de ses avis. La transparence dans les discussions est une condition nécessaire du savoir. Il faut pouvoir partager ses réflexions et en tire d'un dialogue avec ses pairs un bénéfice à la mesure de ce que l'on y apporte. La transparence est aussi une exigence de la démocratie. Le citoyen est en droit de savoir qui conseille le pouvoir, et il est en droit d'exiger l'explicitation des possibles conflits d'intérêts, et en ce sens, il est souhaitable que l'avis des experts soit public. Par contre, par contraste, il est bien évident que tout ou partie des connaissances internes à l'entreprise que doit avoir le conseil scientifique de l'industriel doivent rester confidentielles. Une façon de respecter cette exigence relève de la simple éthique du consultant, qui ne peut évidemment pas conseiller deux entreprises concurrentes, du moins pas sur des domaines où elles sont en compétition. Mais la situation est plus complexe. Le conseiller scientifique est aussi un membre de la communauté académique. Il forme des étudiants, il a des collaborations. Une règle simple est de trancher en cas de conflit entre les exigences du conseil industriel et celles de la liberté académique, en fonction de la liberté académique. La raison en est évidente. À terme, le conseiller n'a d'intérêt pour l'entreprise que précisément parce qu'il la met en lien avec la recherche qui se développe dans le milieu académique. Si les règles de confidentialité le coupent de cette communauté, son statut de conseiller n'a plus lieu d'être. D'où une règle très simple, en cas de conflit, il faut ou bien renoncer à son statut de conseiller en gardant sa liberté académique, ou renoncer à sa liberté académique en rejoignant l'entreprise comme salarié à part entière. La situation du conseiller et du décideur politique est plus délicate et conduit à exiger de lui un devoir de réserve. Son avis doit avoir un poids qui est uniquement donné par son contenu scientifique et technique. La légitimité du politique est basée sur la délégation du pouvoir par les citoyens, donc sur la confiance des citoyens. Si le conseiller donne son avis publiquement aux décideurs, il donne à cet avis un poids qui est d'origine non scientifique, qui est la capacité d'influencer l'opinion, et notamment via les faiseurs d'opinion que sont les médias. Il en résulte que le conseiller scientifique du décideur politique doit observer une réserve absolue, tout en ayant vis-à-vis de celui qu'il conseille une franchise absolue. Autrement dit, alors que les avis des experts doivent être publics, celui du conseiller doit être réservé à l'appréciation du décideur en son âme et conscience. Je vais maintenant en venir au problème de la formation. Nous avons analysé les différentes formes d'expertise pouvant donner lieu à un conseil, selon un destinataire de ces conseils. Reste un point important et rarement abordé, celui de la capacité de ces destinataires à faire bon usage de ces conseils. La question se pose alors non pas en fonction du statut du décideur en entreprise ou en politique, mais en fonction de sa formation. Il fut un temps, Les décideurs dans les entreprises étaient quasi systématiquement des ingénieurs. Ils avaient donc reçu une formation scientifique et technique qui les rendait a priori capables de bénéficier d'un conseil scientifique. Cela ne signifie pas que la situation était sans risque. S'éloignant du savoir technique, les décideurs se sont rapprochés de la certitude qu'ils en savaient bien assez et que c'était de managers et non de techniciens qu'ils devaient s'entourer. Et la mécanique était enclenchée pour que les carrières les mieux reconnues s'éloignent des parcours les plus techniques. Bien au contraire, pour que les décideurs des entreprises, quand ce sont des ingénieurs, puissent pleinement bénéficier des conseils scientifiques, il est extrêmement souhaitable qu'au moins une fois dans leur formation, ils aient eu une expérience de recherche et qu'ils aient été formés aux frontières mouvantes du savoir. Pour ce qui est du décideur politique, il est bien rare désormais qu'il ait reçu ne serait-ce qu'une teinture de formation scientifique, hormis en Chine et en Allemagne. Le sujet mérite réflexion. Il est face à la vie du scientifique en terra incognita. Il faut que le politique prenne conscience de la différence entre un raisonnement scientifique et un témoignage, entre un avis et une opinion, entre une plaidoirie et une démonstration. Ce n'est pas aisé, et il faut du temps pour reconstruire une telle culture. Il faut une formation non pas aux sciences, mais à l'esprit scientifique. Il faudrait que cette formation soit donnée en amont, à Sciences Po, à l'ENA, à l'école de la magistrature, dans les écoles de journalisme, en lieu et place de la vulgate scientifique qui laisse à croire que la connaissance scientifique est une construction sociale. Ce dont le décideur politique a besoin, ce n'est pas de comprendre les transferts radiatifs, c'est de comprendre par quelle méthode la communauté scientifique établit progressivement un corpus de connaissances qui n'est pas un condensé d'opinions. C'est de comprendre que la force de la preuve ne se mesure pas à l'intensité vocale des protagonistes, qu'une discussion scientifique n'est pas une plaidoirie, que toutes les billevesées sur la science comme construction sociale sont un contresens sur ce qui est véritablement la démarche scientifique, l'établissement d'un consensus devant des preuves qui restent valables jusqu'à ce que de nouveaux faits scientifiques viennent le déstabiliser. Mais en attendant que soit formée une nouvelle classe politique ou journalistique, il faut bien faire avec celle qu'on a. Le meilleur moyen de reconstruire cette capacité à s'approprier un avis scientifique, à le tester, au filtre de l'évaluation par les pairs, est l'exercice des commissions d'audition, telles que la pratique l'OPEXT, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Un autre moyen de perfuser dans le monde politique ce qu'est la démarche scientifique est l'initiative de jumelage des membres de l'Académie des sciences avec des membres du Parlement. Une initiative similaire avec les magistrats, avec les journalistes, serait bienvenue, mais elle reste à construire. Si on se contente de former les élites qui décident, on a éventuellement soigné la fièvre, on n'a pas soigné le cœur du problème. Et il faut se poser la question de la formation de tous les citoyens à la démarche scientifique. Pour ce qui est de conseiller le décideur politique, il faut toujours garder à l'esprit que le scientifique n'a aucun droit supplémentaire comme citoyen, mais qu'il a un devoir d'information. Comme la légitimité du politique lui vient du citoyen, on minimisera les risques de hiatus entre la légitimité politique et la légitimité démocratique si le citoyen lui-même a une compréhension non pas du détail de l'avis scientifique, mais de la nature d'un avis scientifique. Au-delà de la formation scientifique des ingénieurs ou de la formation à la science des décideurs politiques, se pose de façon de plus en plus insistante la question de la formation à la démarche scientifique de tous les citoyens. Les centres de la culture scientifique et technique visent un public d'enfants et d'adultes. Mais il faut faire plus pour commencer et commencer plus tôt. C'est ce qu'a entrepris la démarche « La main à la pâte » initiée par Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré. Apprendre aux enfants le questionnement scientifique. Récemment, cette démarche a été reconnue dans le cadre du Grand Emprunt comme particulièrement importante dans la formation des maîtres, maîtres des écoles et professeurs des collèges. Ils viendront dans les maisons des sciences recevoir des formations données au moins pour moitié par des scientifiques et des ingénieurs dans les domaines des sciences de la nature, des sciences mathématiques et numériques et des sciences de l'ingénieur. Alors en conclusion, je vous dirais que La technicité croissante de nos sociétés rend l'expertise scientifique de plus en plus indispensable pour les décideurs. Et cette expertise est dans une situation de plus en plus critique. Il y a urgence à réagir vis-à-vis de dangers mortels. L'un est de former des ingénieurs qui n'ont plus d'expertise scientifique et technique suffisante, au risque de rater les changements scientifiques majeurs et leurs conséquences. L'autre est de laisser l'antiscience gangrener le monde des décideurs politiques. Dans les deux cas, ceux qui ont mandat pour décider ne sont plus en état de bénéficier des avis des scientifiques qui peuvent leur être donnés. Le remède à ce double risque ne peut être que dans la formation. Formation des citoyens en redonnant à la démarche scientifique une place centrale, et cela dès les petites classes. Formation des ingénieurs en les exposant à la science en train de se faire. Formation des futurs politiques en les exposant à une pratique du raisonnement scientifique. Formation des politiques, journalistes, magistrats en place, en leur permettant, comme à l'OPEXT, d'avoir accès à une expertise collégiale et en leur donnant, comme dans les jumelages, un carnet d'adresses dans le monde scientifique. Et enfin, formation des scientifiques eux-mêmes. Nous avons tous vu ou même vécu cette situation pathétique où un scientifique fait piètre figure face à un militant ou un journaliste qui n'a pas son souci d'exprimer toutes les nuances d'un jugement. Sans renoncer à ses principes, s'il doit monter sur le ring, l'expert scientifique doit apprendre les passes qui y ont cours, sinon il vaut mieux s'abstenir et rester un homme de dossier. Dans l'état critique où nous sommes, il n'est pas évident que nous puissions compter uniquement sur la solidité des argumentaires scientifiques pour contrebalancer le retour des sophistes. Et il nous faudra former des lutteurs. Je vous remercie. Je suis dans les temps.
Très bien.
Bien.
Merci beaucoup pour cet exposé. Je suppose qu'il va y avoir de nombreuses questions. Enfin, j'espère, en plus. Jacques.
Merci pour ce brillant exposé. Ne pensez-vous pas qu'un facteur qui aggrave la situation est la montée de complexité qui saisit aussi bien les scientifiques que les politiques? En fait, est-ce que vous n'estimez pas, est-ce qu'on ne peut pas estimer qu'on est devant un monde de plus en plus complexe où une décision proche de la vérité est très très difficile à évaluer, et qu'elle l'est beaucoup plus qu'elle ne l'était par le passé, et qu'il y aurait là l'une des causes des problèmes que vous venez d'évoquer très brillamment?
Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce qu'on mesure la complexité d'évaluation au rapport entre le monde qu'on essaye de comprendre et les outils qu'on a pour le comprendre. Le monde se complexifie à la mesure des outils qui nous ont permis de le construire. Je pense que nous sommes avec un monde confus, pas un monde complexe. Je pense que le problème, c'est une démission de la rationalité plus qu'une complexification du monde.
Les présidents de ce monde climat prennent la parole.
Ah oui. On fait ça par ordre hiérarchique, sauf le climat.
En remontant. Oui, moi je me pose la question qui a été très bien traitée ou posée par Gérard Bourdaire, qui est celle qu'on va chercher les informations qu'on veut avoir.
Oui.
Et actuellement, c'est vraiment extraordinaire. On sait bien qu'il y a des débats dans les milieux scientifiques, et on sait bien aussi que les politiques vont chercher dans ces débats ce qui conforte leur position. Et ça, je ne sais pas trop comment s'en sortir, si ce n'est un enseignement de l'éthique. Et cet enseignement, il devrait être donné déjà dans les lycées, les collèges, etc. Qu'est-ce que c'est un comportement éthique? Et manifestement, ça, c'est pas du tout éthique de dire moi je vais choisir la théorie qui m'intéresse, parce qu'elle conforte déjà mon a priori.
C'est, quand je dis que ce qu'il faut apprendre, c'est la démarche scientifique et pas nécessairement telle ou telle science de manière très poussée. Je veux dire, ça va dans ce sens-là. Pour moi, les démarches scientifiques, la condition sine qua non qu'une science soit possible, c'est justement déjà une éthique de respect de la complexité des faits et de ne pas les faire entrer au chausse-pied dans une vision complètement étriquée de la réalité. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Mais je pense qu'il y a une deuxième chose qui est, on peut constater, et Dieu sait que je suis complètement d'accord avec Gérald, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, je veux dire, un sociologue rationaliste, ça devient suffisamment rare pour mériter d'être opéré, ça. Une chose qui est importante, c'est que, je veux dire, chacun d'entre nous, toute personne qui a une formation scientifique ou qui a pratiqué une discipline d'ingénieur a un devoir vis-à-vis des concitoyens. On a réussi à botter en touche pour une raison complètement inadmissible. Le truc qui, pour moi, me met dans des colères noires, c'est d'imaginer qu'on gère le fait de parler à nos concitoyens par un machin qui est une gigantesque blague, qui est le grand débat public. Je veux dire, vous mettez une salle de 200 personnes. Dans une salle de 200 personnes, si vous avez 20 personnes qui ont envie d'empêcher, c'est-à-dire 10% de la salle, qui ont envie d'empêcher qu'un débat se tienne, le débat ne se tiendra pas. Vous mettez 20 personnes, s'il y en a deux, qui ont envie que le débat se tienne, qui ont envie que le débat ne se tienne pas, les 18 autres leur disent « taisez-vous, on a envie d'écouter ». Seulement, c'est tellement plus commode de se racheter une virilité vis-à-vis d'un peuple qu'essentiellement on méprise, en disant « je vais le traiter par paquet de 200 parce que c'est plus rapide », qu'on a essentiellement botté en touche de ce côté-là. L'autre aspect, c'est que dans une salle de 200 personnes, il y a des gens qui auraient bien envie de poser une question, mais ils n'osent pas parler devant 200 personnes. Dans une salle de 20 personnes, tout le monde a plus ou moins une capacité à parler à 20 personnes. Donc je pense que... Alors vous allez me dire, il faut beaucoup de monde, il faut beaucoup de temps pour faire ça. Oui, mais on est nombreux aussi. On est de nombreux scientifiques qui considérons que le travail qu'on a fait, la culture scientifique qu'on a, est un bien commun. C'est quelque chose qui appartient à tous nos concitoyens. Et ça veut dire, essentiellement, et c'est une des choses que j'aime bien dans Sauvant le Climat, c'est que, alors, en tant qu'association, elle donne beaucoup d'informations. En tant qu'individu, je suis sûr que la plupart d'entre vous, à un moment ou à un autre, vont parler, vont faire des cafés des sciences, des choses où il n'y a pas beaucoup de monde. Et je pense qu'il faut qu'on revienne à parler aux gens directement. J'ai beaucoup cité Montesquieu qui disait « j'aime bien parler avec mes paysans parce qu'ils ne sont pas assez instruits pour raisonner de travers ». Je trouve que c'est profondément sage. On a eu une relation au public qui a été complètement dénaturée par une intervention de demi-savants qui sont les médias. Je pense que ce qu'on doit reconstruire, c'est une relation directe avec les citoyens.
Ça c'est vrai, mais quand tu es un scientifique, par exemple institutionnel, au CNRS ou dans l'enseignement supérieur, tu as tout simplement le nez dans le guidon. Tu n'as pas le temps de t'occuper de ces choses-là. Je constate par exemple que pour moi et pour beaucoup d'amis ici présents, on a le temps de s'occuper à un moment un peu particulier de notre vie, c'est le moment où on détache du boulot et où effectivement où on est à la retraite. Et il y a une très grande difficulté, c'est que généralement les scientifiques institutionnels, ils ont de l'emploi, ils sont payés, ils ont énormément de boulot, ils ont souvent leur famille, et ils n'ont pas le temps de faire ces choses-là. Moi je regarde très bien autour de moi, dans le laboratoire que tu connais très bien d'ailleurs.
Mais Frédéric, tu sais bien que ce n'est pas vrai. On a été dans le même laboratoire, chaque fois que je t'ai envoyé quelqu'un en disant « allez voir ce monsieur-là », tu les as accueillis à bras ouverts, tu as parlé avec eux. Et tu n'étais pas à la retraite. Et tout le monde peut le faire si on lui demande de le faire. Attends, si je trouve le temps de le faire, il doit y avoir d'autres personnes qui trouvent le temps de le faire quand même.
Juste, je voudrais mettre un petit bémol à ce que vous dites. Il y a 113 prix Nobel qui ont signé une pétition pour les OGM et en s'opposant à la campagne de Greenpeace anti-OGM. Avez-vous lu de nombreux articles dans les journaux ?
Mais pourquoi lisez-vous les journaux ?
Oui, c'est une bonne remarque.
Attendez, moi je... Ne me satisfait pas. Non, mais attendez, moi je vais vous dire ce que disait André Gide du journalisme. Il disait c'est ce qui est moins intéressant demain qu'aujourd'hui. C'est une définition parfaite. Je veux dire, pourquoi des citoyens dans une démocratie n'auraient pas le droit de penser par eux-mêmes, de discuter avec les gens autour d'eux qui ont un message à leur faire passer. Moi, je pense qu'on est arrivé, je pèse mes mots, on a dénaturé la relation avec les citoyens en la faisant passer par une médiation qui n'a essentiellement aucun contenu rationnel. C'est un contenu de communication et c'est un contenu d'affichage.
Bon. Juste peut-être pour aller dans l'autre sens, c'est vrai, tous ceux qui travailler dans la recherche, et en particulier la recherche universitaire, pendant toute notre période, il y a 20, 30, 40 ou 50 ans, on s'occupait pas du tout du public, on en avait à peu près rien à faire. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais fait de conférence grand public quand j'avais 40 ans. Les choses viennent un petit peu différemment parce que il y a quand même de plus en plus de gens qui sont en activité, qui prennent le temps quand même de dire quelque chose.
Mais vous avez raison, mais le problème, c'est que je veux dire, on pense jamais à l'utilité des pompiers tant qu'on n'a pas vu l'incendie d'une maison. On est dans une situation où la maison brûle.
Oui, bien sûr. Michel.
Oui, non, mais il y a une difficulté, c'est de passer de la technicité au public qui n'est pas. Il faut remonter le niveau du public avec des mots simples. C'est extrêmement difficile.
Je vais vous donner un exemple. Alors, pour une fois, j'ai parlé un peu de nucléaire, plus précisément. Vous savez, il y a eu il y a deux ans, je crois, un début d'incendie à Fessenheim. Vous vous souvenez de ce truc-là, la Pravda verte a quasiment titré « Attention, accident nucléaire à Fessenheim ». On n'en était pas loin. Hein.
Oxygéné.
Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, alors, mais c'est toute la démarche que je vais vous raconter. Il y a le bistrotier du coin, l'endroit où j'habite, qui est un Auvergnat, donc quelqu'un d'infiniment respectable, je suis Auvergnat de naissance, qui est un Auvergnat, qui me dit, ouais, je crois que vous travaillez un peu dans le nucléaire, ouais, un peu, effectivement. C'est quoi cette histoire d'accident nucléaire à Fessenheim? Je dis, bon, attendez, je ne sais pas le détail, mais je vais me renseigner. Donc je me suis renseigné, effectivement, on m'a dit, on a vidé un bidon d'eau oxygénée concentrée dans un bidon où il y avait encore du mazout, et que ça avait foutu le feu et que ça avait fait un début d'incendie. Bon, je reviens avec les informations, prises à la bonne source, hein, je les avais assurées, je reviens vers mon bistrotier, je lui raconte ça. Elle me dit, ah, c'est ça, ben, c'est pas un accident nucléaire alors. Je veux dire, mon bistrotier, il n'a jamais fait de physique nucléaire. Je veux dire, et mon bistrotier, il fait très bien la ligot à la saucisse, mais il fait pas. Il n'a jamais fait de physique nucléaire. Il dit, ah, c'est pas un accident nucléaire. Mais d'abord, je dois vous dire une chose, c'est que j'apprécie que vous soyez renseigné avant de me répondre. Et la deuxième chose que m'a dit mon bistrotier, il m'a dit, mais quand même, dans une industrie de cette technologie, c'est quand même pas normal que les gens ne soient pas foutus de faire la différence entre un bidon propre et un bidon sale. Et bien, ce type-là, en trois réflexions, il avait condensé beaucoup plus d'intelligence que toutes les piles de journaux que vous auriez pu avoir sur le sujet. Donc on peut parler directement aux gens, mais il faut juste les écouter, et il faut parler aux gens et pas aux foules. Mais moi, je ne sais pas parler aux foules, je ne parlais qu'aux gens.
Oui, je voulais revenir un instant sur l'image de la science de la société, gradée, disons, par rapport à ce qu'elle était il y a 50 ou 100 ans. Et il me semble qu'on ne peut pas ne pas aborder le fait qu'il y a une centaine d'années, il allait de soi pour tout le monde que le progrès scientifique s'accompagnerait du progrès social. L'éducation, tout ça, ça, tout le monde profiterait de ça, il y aurait. C'était une chance pour tout le monde, qu'elle est développée, etc. Et puis, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de progrès et tout le monde en a profité, mais ça ne va plus de soi maintenant. Enfin, il y a eu des tas de choses qui se sont passées et qui ont fait que ce n'est pas si simple que ça. On ne peut pas juste compter sur le développement scientifique pour avoir du progrès social, culturel, etc. etc. Je crois que ce n'est pas vrai. Il y a plein de choses qui se sont passées, il y a eu les guerres, il y a l'augmentation des inégalités maintenant, il y a le réchauffement climatique, etc. Alors je ne veux pas dire que c'est sûr qu'il faut de la science pour régler ces trucs-là, mais il se trouve que, de façon très existentielle en quelque sorte, la situation a changé, tout le monde a dans le fond, derrière tout ça, dans le fond d'esprit, que ce n'est pas automatique, ce n'est pas parce qu'on a un développement scientifique qu'il y a un développement social. Et un certain nombre de porteurs d'un certain nombre de valeurs auxquelles les gens tiennent plus ou moins. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à
ça ? Alors, tu as tout à fait raison. Hein. Je veux dire, je ne suis pas en train d'essayer de vous donner une vision de bisounours de l'existence. Hein. C'est complètement vrai qu'on est passé d'une situation où l'abbé, je veux aussi dire, enfin, ça ne date pas d'aujourd'hui quand même. Hein. Je veux dire, les ludites étaient en train de détruire les machines, sans parler des machines de Jacquard, parce que ça risquait de perdre des emplois. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais c'est vrai qu'aussi, on a vu beaucoup d'augmentation disons, d'augmentation de technique, d'augmentation de productivité, qui en fait n'ont pas bénéficié à la majorité de la population. Ça, c'est tout à fait vrai, et ils le sentent, ça c'est vrai. Maintenant, il y a deux choses. Il y a le terreau sur lequel ça se passe. Moi, quand j'étais gamin, quand on allait à l'épicerie, qu'est-ce qu'on avait sur le billet de 5 francs ? On avait la tête de pasteur. Tous les gamins voyaient la tête de pasteur sur le billet de 5 francs. À un moment ou à un autre, ils avaient vu une cornue, ils avaient vu un monsieur avec une barbe blanche, et ils ont lui demandé qui c'était. Pasteur avait reçu une lettre un jour qui était adressée de la plus lointaine province à celui qui fait des miracles. C'est arrivé sur le bureau de Pasteur, et c'était effectivement à lui qu'elle était adressée. Donc il y avait une sorte de proximité, tout en ayant un éloignement, il y avait une proximité, la science, c'était quelque chose de bien. Je veux dire, quand Arago a lancé son cours d'astronomie populaire, il a fallu construire un amphithéâtre de 2000 personnes à l'Observatoire de Paris. Il y a ce comte Le Verrier, après, qui l'a détruit, parce qu'il n'imaginait pas que les gens puissent s'intéresser à l'astronomie s'ils n'étaient pas capables de découvrir la planète Neptune. Mais enfin bon, je veux dire, il y a eu véritablement une image très positive de la science. Alors après, il y a eu un certain nombre de choses où, effectivement, elle a été utilisée dans des circonstances où c'était pas forcément très agréable de l'avoir utilisée. Je veux dire, le gaz moutarde pendant la Première Guerre mondiale, la bombe atomique pendant la Deuxième. Enfin, il y avait des tas de bonnes raisons de dire, et c'est peut-être pas complètement aussi bien que ça. Après, le développement économique, dont on peut quand même pas dire, il a quand même bénéficié en moyenne à tout le monde, mais les écarts-types sont devenus quand même assez considérables. Donc, toutes ces choses-là font effectivement que la science n'est pas une fin en soi. N'est pas perçu nécessairement comme un bien. Mais c'est un ensemble de causes pour la désaffection. C'est quelque chose qui peut l'expliquer, c'est pas quelque chose qui la justifie. Et d'une certaine manière, c'est aussi, quand je dis que tout scientifique est un citoyen, il est aussi un citoyen pour faire, dans la mesure du possible, que les développements scientifiques auxquels il contribue puissent bénéficier à l'ensemble des citoyens et pas simplement à telle ou telle personne. Ça, mais ça, je veux dire, c'est une affaire personnel, individuel.
Est-ce que c'est uniquement une affaire personnelle et individuelle ? Parce que si ça devient le mode d'existence de la science dans la société, est-ce que les scientifiques ne doivent pas entrer un petit peu plus dans l'arène des choix politiques et techniques qu'on fait ? Ça rejoint un peu ta situation personnelle de conseiller. Mais est-ce que la communauté en tant que telle ne doit pas entrer un petit peu plus dans l'arène, en tant que tel, et pas seulement en tant qu'individu, citoyen, comme les autres.
Non.
Tu veux te présenter au prochain présidentiel ? Non, j'ai bien compris.
Non, mais ce que je veux dire, pour moi, c'est pas singulier de la communauté scientifique. Ça, c'est vrai de tous les citoyens. On a délégué de manière complètement abusive la parole citoyenne à des gens qui l'ont confisquée. Et donc, c'est pas simplement le propre des scientifiques, ça. Le scientifique, chaque citoyen doit participer à la vie publique avec ses propres compétences, avec son propre vécu, avec ce qu'il y apporte. Un scientifique y apportera la science, un agriculteur y apportera l'agriculture, un autre. Je veux dire, on n'a pas un statut privilégié vis-à-vis de ça. C'est mal pour tous les citoyens de pas se sentir concerné par ce qui se passe dans la cité. Pas spécialement plus mal pour le scientifique.
Jean-Marie, je crois que... Où est le micro ?
Pardon, oui.
Excusez-moi.
Dans la communication, faut-il remonter le niveau du public ou vulgariser les messages scientifiques ?
Je ne sais pas pourquoi ça serait exclusif. Je veux dire, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de faire dans la communication scientifique ce qu'on est en train de faire dans les programmes des écoles, quoi. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de faire du storytelling, il faut expliquer aux gens comment ça marche en vrai. Et ça, c'est une règle d'honnêteté intellectuelle. Il faut que les gens comprennent à un moment. Enfin, le vieux Kant avait un mot que je trouve absolument admirable, il faut distinguer ce qu'on sait de ce qu'on croit. Ça ne veut pas dire qu'on doit rien croire. Ça veut dire quand on croit quelque chose, il faut que ça soit identifié comme une croyance. Et quand on sait quelque chose, ça veut dire qu'on doit être capable de l'avoir décortiqué. Et pour moi, la bonne vulgarisation scientifique, c'est pas celle où on décortique tout dans le détail. Je veux dire, les gens vont pas redécouvrir la mécanique quantique ou la mécanique analytique tout seul comme des grands. C'est juste pas vrai. Mais c'est de leur dire, bon, y a des choses qui sont considérées comme acquises par une communauté scientifique, et voilà comment les briques s'enchaînent les unes aux autres. C'est ce que j'appelle comprendre ce que c'est qu'un esprit scientifique. Mais nous autres scientifiques, on est comme ça. Je veux dire, moi, quand je fais de la métallurgie physique, je vais pas toujours, en permanence, reconstruire comment fonctionne un microscope électronique, parce que je ne croirais pas ce qui a marqué sur la notice. Je dis, les gens qui font de la microscopie électronique me disent que cet instrument-là, ben voilà comment il fonctionne et voient le type d'information qu'il peut me donner. Et ça, je le considère comme acquis. Et puis, à partir de là, je construis, j'apporte ma propre pierre à l'édifice. Je veux dire que c'est... la science se construit aussi comme ça, par un certain nombre de choses qu'on considère comme acquis, un certain nombre de choses qu'on apporte en propre. C'est aussi une honnêteté vis-à-vis du citoyen de lui dire ça, à part que lui, il y aura un peu plus de choses qu'il devra considérer comme acquis. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est complètement, complètement illusoire, c'est de prétendre aux gens qu'on apprend la science par osmose. Il suffit d'être juste à côté de la télévision pour que d'un seul coup, ça vous passe dans les neurones. C'est pas vrai.
Il faut de temps en temps travailler.
Ben oui, c'est oui.
Vous avez parlé de la formation des très jeunes.
Oui.
Je pense que c'est essentiel. D'une part, il faut savoir qu'il y a actuellement beaucoup d'associations qui font de la formation chez les très jeunes, pas chez les lycéens, hein, déjà en primaire, qui sont subventionnés et qui racontent des choses totalement inexactes. C'est très répandu dans beaucoup de coins de la France. Mmh. Alors, ce que vous avez mentionné, qui me paraît important, c'est l'affaire de la main à la pâte. Dans la main à la pâte, il n'y a pas d'idéologie. On part de ce qu'on observe. Et je pense que c'est une formation importante de partir de ce qu'on a observé et qu'on a discuté en groupe. Et puis, il y a un deuxième aspect dans la main à la pâte, qui est souvent ignoré, c'est que les jeunes qui ont travaillé ensemble, eh bien, ils en sortent beaucoup de plaisir.
Alors, ça me fait très plaisir de vous entendre ça, de vous entendre dire ça, parce que, bon, si j'ai parlé de la main à la pâte, c'est pas totalement de manière désintéressée. Il se trouve que je préside le conseil scientifique de la Fondation La Main à la Pâte. Donc, évidemment, je suis complètement neutre, hein, sur ce sujet-là. Et que un des trois fondateurs de La Main à la Pâte, c'est Yves Quiré, qui était mon professeur de métallurgie. Donc là, vraiment, je suis complètement neutre, vous voyez. Il y a une chose, c'est vrai. Moi, je ne suis pas allé dans les écoles faire La Main à la Pâte, mais j'ai rencontré beaucoup d'instituteurs qui la faisaient. Mais là encore, on est dans une chose qui est très importante, c'est qu'il faut du temps. La Main à la Pâte a commencé il y a 15 ans. Il y a 15 ans, il y avait 1% des classes de primaire qui entendaient parler de science. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 50%. C'est pas assez. Mais en 15 ans, on est passé de 1% à 50%. Ce que la Fondation La Main à la Pâte fait maintenant, et c'est un appel à bonne volonté que je fais d'une certaine manière, ce que la Fondation fait, c'est dans un certain nombre d'académies, pour l'instant on en a créé 9, on crée des maisons des sciences, qui sont des endroits où les enseignants du primaire et du secondaire viennent recevoir des formations en formation continue qui sont données par des scientifiques et des ingénieurs, et de façon à ce qu'ils aient une formation à la science par ceux qui la pratiquent. Et vous avez tout à fait raison, il y a l'émerveillement de la découverte. Yves Quiré me racontait une chose merveilleuse. Une des premières séances de La Main à la Pâte qu'il avait faite, c'était de mettre un thermomètre dans une casserole et de faire bouillir l'eau. Et les enfants regardaient ça. Et puis, bon, le thermomètre, il monte 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, 100 degrés. Paf, plus rien. Il s'arrête à 100 degrés. Une petite fille se précipite vers la maîtresse. Maîtresse, maîtresse, le thermomètre, il est cassé. C'est parfaitement normal comme réaction. Et après, c'est de lui apprendre, autour de cette réaction-là, à construire un raisonnement. Ben, s'il est cassé et que tu recommences, il ne va pas pouvoir marcher, enfin, etc. Elle n'est pas laissée complètement à l'état libre, elle est guidée dans son observation. Et ça, c'est subtil, parce que ce n'est pas cette espèce de vision complètement bisounours d'imaginer qu'ils vont redécouvrir la loi de la gravitation universelle tout seul. C'est juste pas vrai. C'est de les guider dans une observation fine, de les guider dans la construction d'un raisonnement. Et ça demande, c'est la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure, de parler aux citoyens, ça demande d'avoir la patience d'écouter les enfants. C'est une question de patience et c'est absolument extraordinaire quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, non pas tout seuls, mais quand on les aide en les écoutant. Et moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Les maisons sont en train de se mettre en place, que les gens qui sont volontaires, qui ont envie de le faire, aillent non pas pour aller expliquer à quel point ils ont tout fait des trucs géniaux pendant toute leur carrière ou à quel point la science qui pratique est tellement fantastique qu'il faut absolument qu'ils recrutent des thésards à l'âge de 4 ans. Non, c'est juste de se dire la science que j'ai pratiquée ou l'ingénierie que j'ai pratiquée, le comprendre pour comprendre ou le comprendre pour faire, c'est quelque chose qui est constitutif de ma manière d'être et c'est quelque chose que je veux partager. Et je vais vous faire partager... Au niveau où vous-même vous commencez à comprendre, eh bien, partagez cette joie de comprendre et de faire. Donc là, moi, je suis un enthousiaste de cette démarche-là. Et encore une fois, on est à des années-lumière de ce que j'appelle le storytelling. Moi, il n'y a rien qui m'énerve autant que quand j'entends dire « il faut rendre la science ludique ». Enfin, rendre la science ludique, ça veut dire quoi ? Il faut se mettre à cloche-pied pour parler de science ? Il ne faut pas la rendre ludique, il faut la donner pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une démarche intéressante pour comprendre le monde. Et les enfants sont parfaitement capables de comprendre ça. En fait, contrairement à ce qu'on pense, les enfants peuvent aimer les clowns, mais ils ont horreur des gens qui font les clowns en les prenant pour des imbéciles.
Je voulais dire juste au sujet de la vision qu'on peut avoir de la science qui est maintenant vue avec beaucoup de réticence. Je crois qu'il n'y a pas de bonne science et de mauvaise science. Il y a la science, l'acquisition de connaissances, et puis ensuite, il y a ce que l'on en fait. Et ce que l'on en fait peut être extrêmement préjudiciable, peut-être tout à fait bénéfique. Et ça, c'est une autre exploitation, une autre voie qui relève de décisions prises sur la base des connaissances acquises. Et je voudrais revenir sur une parole que vous avez dit, que les médias, pourquoi est-ce qu'on irait voir les médias pour s'informer ? Malgré tout, on est quand même obligé de prendre connaissance des problèmes. Cette prise de conscience, on l'a quand même à travers les médias. Le problème, c'est que cette information peut être très souvent biaisée. Et la présentation qui en est faite, être sujette à beaucoup de critiques. Donc, l'éducation des médias n'est pas un enjeu négligeable.
Je n'ai pas dit que c'était un enjeu négligeable. Je vous invite à faire une expérience que j'ai faite moi-même. Vous prenez... je lis pratiquement plus les journaux parce que vraiment, ils m'exaspèrent au dernier degré. Et puis, de toute façon, ça ne rate pas. Il y a toujours quelqu'un pour me dire ce qu'il y a dedans. Donc, je suis bien obligé de le savoir. Mais faites l'expérience suivante. À l'époque où je n'étais pas obligé, j'ai fait l'expérience de lire régulièrement les journaux pendant un mois. Alors là, il faut rentrer en apnée, mais on peut faire. Hein. Et puis après, vous faites l'expérience, vous ne lisez pas le journal pendant un mois, mais vous l'empilez. Vous prenez une pile de... vous prenez vos journaux pendant un mois, vous l'empilez. Et après, au bout d'un mois, vous prenez votre pile de journaux. Et vous dites, qu'est-ce qui valait vraiment la peine que je prenne le temps de le lire ? C'est un exercice extrêmement intéressant. Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste d'écume dans ce truc-là ? Faites cet exercice. Je pense que chaque personne devrait faire cet exercice et de se dire, voilà, effectivement, on peut s'époumoner et essayer de contrecarrer toutes les âneries qu'ils vont pouvoir dire au fur et à mesure. On peut aussi se dire que le temps fait son affaire. Alors maintenant, je vais être un peu sarcastique. Le vieux Karl Popper, le dernier livre qu'il a écrit, c'est un livre sur la télévision. Alors, Karl Popper avait écrit dans ce livre sur la télévision. À l'époque, quand je l'avais lu, je me suis dit, allez, ça y est, là, il a pété les plombs, il est devenu gâteux, Karl Popper. Il a écrit un livre sur la télévision. Grosso modo, il dit la seule chance de survie des sociétés de la démocratie occidentale telle que nous la connaissons, c'est grosso modo de plastiquer les émetteurs télé. C'était peut-être un peu excessif comme méthode, mais je pense que ça mérite réflexion.
Je voudrais...
Alors, ne dites pas nulle part que le haut commissaire a recommandé de mettre des bombes sur les émetteurs télé. Non mais alors quand même, il y a une chose dont je tiens quand même à vous dire, parce que ça c'est ma dernière colère en date, c'est quand même, moi il a fallu me décrocher du plafond quand j'ai découvert qu'à l'école, c'est-à-dire à l'endroit où on va apprendre aux enfants ce que c'est que la science, ce que c'est que la démarche scientifique, il faut que vous sachiez que dans les nouveaux programmes, il écrit noir sur blanc que dans les programmes de mathématiques, la démonstration, la notion même de démonstration n'est plus à l'ordre du jour. Alors expliquez-moi ce que c'est que les mathématiques si les démonstrations ne sont plus à l'ordre du jour. Je veux dire, à ce niveau-là, c'est plus de la connerie. Il faut avoir pris des cours pour faire ça. Non, c'est juste pas admissible. Mais quand je dis c'est pas admissible pour un scientifique, pour quelqu'un comme moi qui est passionné de mathématiques, c'est pas admissible. Mais pour un citoyen, c'est pas admissible. Imaginez qu'à des générations de gamins, on va expliquer que toutes les vérités sont équivalentes et qu'il n'y a rien qui puisse se prouver avec un quelconque degré de certitude. Enfin, si vous voulez faire une génération d'esclaves, vous y prendriez pas autrement.
Pour prolonger la question précédente, je voudrais revenir au rapport entre experts, conseillers, scientifiques et décideurs, notamment décideurs politiques, pour poser la question de l'influence des lobbies, et l'influence grandissante, et que peut faire la science et les scientifiques face à cette situation ?
Déjà pas en faire partie. Ça serait déjà pas mal, ça. Écoutez, là, vous avez raison, c'est un vrai problème. Mais les lobbies ne sont pas... je veux dire, le problème, c'est que la science n'est pas la cause des lobbies. La science peut être éventuellement un remède pour se battre contre eux, comme elle peut être des faux arguments pour les soutenir. Encore une fois, ce n'est pas la panacée. Mais si elle n'est pas là, on est sûr que là, les lobbies peuvent faire exactement ce qu'ils veulent. Donc c'est vrai, quand on voit un truc qui est un effet d'un lobby, ben, c'est le devoir d'un scientifique, y compris d'un scientifique qui a travaillé dans le domaine industriel qui correspond à ce lobby. C'est le devoir du scientifique de dire que ce n'est pas bien. Moi, c'est ce qui me fait dire que dans le domaine du nucléaire, je dis très régulièrement aux gens du CEA ou aux gens d'EDF ou aux gens d'Areva que le mensonge n'est pas une option. C'est juste pas une option. Quand quelque chose qui est dans un domaine est aussi important, c'est une trahison vis-à-vis du citoyen que de mentir, quelle que soit la raison pour laquelle on ment. Alors bon, je veux dire, ça c'est une question d'éthique personnelle. Mais lutter contre les lobbies, encore une fois, je veux dire, c'est le scientifique doit le faire avec ses moyens. Mais c'est le citoyen qui décide de le faire, et le citoyen responsable, et le citoyen qui a une certaine éthique et un certain nombre de principes.
Moi, je serais très pessimiste hein, sur l'acceptation de la science par nos concitoyens, beaucoup plus que vous, parce que, et ça, à mon avis, ça date depuis la fin des Trente Glorias, depuis le milieu des années 70. Hein. Le sport national, quand on discute avec nos collègues, avec nos concitoyens, avec le public, c'est la remise en cause des élites. On nous cache toujours quelque chose. Ce qu'on nous dit, si on nous cache, c'est pas vrai, surtout si les gens sont censés, qui vous parlent, sont censés détenir le savoir. Alors c'est vrai pour les OGM, c'est vrai pour la chimie, c'est vrai pour les radiations. Hein. Allez faire, dès que vous voyez une antenne quelque part, ça y est, il y a des radiations, on va être irradié, on va avoir des problèmes. Vous faites des études indépendantes, vous doublez les études, vous les triplez, vous êtes à 10-2, 10-3 en dessous de la norme. Mais ça ne fait rien, c'est dangereux. On nous cache quelque chose, forcément. Sauf si l'étude conduit à dire que, quelque part, on n'est pas loin de la norme. Donc là, c'est bien, ils ont raison. Et ça, c'est vrai, et ce qui est très grave, même par des gens de métier, des universitaires. Vous faites des analyses, parce qu'à ce moment, le Front National, c'est la remise en cause des, justement, et les dangers, à la fois des ondes, à la fois de la chimie et autres, des produits, pas seulement radioactifs, des produits chimiques et autres. Vous faites des analyses qui sont très onéreuses, très complexes. Vous êtes toujours très, très en deçà des normes qui ont, elles, des coefficients de sécurité importants. Et même pour certains chimistes, eh bien, c'est dangereux parce que même à 10-2 sous la norme, eh bien, quelque part, il y a peut-être un petit risque, les petites quantités. Ça pose un vrai problème. Et en gros, c'est la remise en cause du savoir rationnel, y compris par ceux qui devraient le véhiculer. Ça, c'est la première chose. Et ça, je crois que derrière tout ça, il y a une idéologie. Cette idéologie est comportée à la fois par les médias. Hein. Il suffit de voir, je crois, l'émission d'hier soir, par une chaîne publique, payée par nos deniers, dont le nom, chaîne de télé, dont le nom commence, la première lettre commence par A, la deuxième, c'est R. Je vous laisse voir la suite. Il y a trois autres lettres. Voilà. Et qui a fait son front de commerce dans la remise en cause du nucléaire, entre autres, hein, mais pas que. Voilà. L'école, vous parliez de l'école tout à l'heure, qu'est-ce qu'on leur apprend aux gamins ? On leur apprend que l'électricité, elle est faite par des éoliennes et par du photovoltaïque. Et ça, c'est aussi la faute des producteurs, c'est aussi la faute des médias. EDF, regardez la pub d'EDF, vous voyez une grande éolienne, à côté un photovoltaïque, et puis un tout petit, mais alors en bas, vraiment petit, une espèce de truc, ce serait peut-être un peu une centrale nucléaire, mais il ne faut pas trop le montrer. Et tout ça, c'est fait que, eh bien, dans l'esprit des gens, c'est, un, on nous cache quelque chose, et deux, finalement, l'école, les médias qui remettent en cause, les gens qui devraient défendre cette politique, qui ne le font pas, eh bien, conduit à faire que on arrive à justement un rejet majeur des sciences, ce qui a fondé le développement, qu'on le veuille ou non, le bien-être depuis deux siècles. Quelque chose qui va vraiment frapper, et moi qui m'énerve un peu, à chaque fois qu'on discute de Fukushima, par exemple. Fukushima, c'est, je vous rappelle, 18 000 morts par le signe, par le tsunami, et deux, je crois, même pas sûr, quand ils ont été noyés, par le nucléaire. Deux. Dans l'esprit des gens, de pratiquement tous les gens, c'est une catastrophe nucléaire. C'est nucléaire, les morts, évidemment, la catastrophe, c'est la centrale, c'est le nucléaire. c'est pas le tsunami, l'ombre, et pourquoi? Parce qu'il y a un tel bombardement des médias que finalement le commun des mortels, qui ne s'y intéresse pas trop, eh bien il prend ça pour argent comptant. Et je crois que, on le dit, je ne sais pas qui l'a dit, mais un mensonge 100 fois répété, ça devient une vérité. Et je crois que c'est ça, et malheureusement, je pense, je suis assez pessimiste qu'on a perdu cette bataille de la communication, et ayant perdu cette bataille de la communication, ça va être très difficile de revenir à l'arrivée.
Alors, je vais vous dire plusieurs choses. Ce que le politique ou l'industriel considère de la communication, c'est ce qui lui permet de parler avec les journalistes avec qui il soupe le soir en ville, dans le 5e et le 6e arrondissement. C'est ça, la communication. Parce qu'ils savent qu'il va y avoir une page dans le journal qui va dire ça ou ça. Et c'est là-dessus qu'ils construisent tout ce qu'ils veulent. Maintenant, moi, quand on dit « les gens ne font pas ça, ne comprennent pas ça », etc., moi, je veux dire « les gens, il faut aller les voir ». L'indignation que vous venez d'avoir, je la partage. Mais c'est pas dans l'amphithéâtre de Sauvons le Climat qu'il faut avoir, et c'est pas dans l'amphithéâtre de 200 excités anti-nucléaires ou anti-quoi que ce soit qu'il faut le faire. Il faut parler autour de vous avec des groupes de 10 personnes et des groupes que vous connaissez pas, et vous allez voir des gens qui sont réceptifs à ce genre de choses. Qui sont réceptifs à ce genre de choses parce que ils sont aussi, les gens sont pas si bêtes que ça. Ils voient bien que les journaux font à peu près n'importe quoi, qu'un truc qui est archi important 15 jours après ne l'est plus du tout, que c'est téléphoné d'avance. Je veux dire, quand même, il n'y a pas un type normalement constitué qui va pas se surprendre que le monsieur, comment il s'appelait, le bonhomme qui faisait des, qui montre que les OGM soient différents, sont dangereux, monsieur Serralini. Monsieur Serralini publie en même temps un bouquin, un article dans le Nouvel Obs et un film. Je veux dire, tout ça juste en même temps et que le truc une semaine après, ça n'existe plus. Les gens s'en rendent compte de ça. Seulement, les gens ne le disent pas. Et les gens, ils vont pas souper dans le 5e arrondissement. Donc, je pense fondamentalement, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est parler autour de nous et parler de la science qui fait. Puis, ce que vous dites de Fukushima, c'est pleinement vrai. Et si quelqu'un vous dit que c'est pas vrai, vous lui donnez les preuves que c'est comme ça. Et vous n'allez pas pouvoir le faire à 200 personnes. Je veux dire, le grand problème qu'on a, c'est qu'on s'imagine toujours qu'on va pouvoir convaincre des tas de gens. Il y a des gens, on ne convainc pas les gens en groupe. En groupe, on les endoctrine et on les intoxique. Les gens, on les convainc, on les voit petit à petit. Et c'est encore une raison que mon cher Blaise Pascal avait donnée il y a très très longtemps. Il disait, on ne se convainc vraiment que des raisons qu'on a trouvées soi-même. Vous ne trouvez pas une raison devant une télévision. Devant une télévision, vous êtes lobotomisé. Vous attendez que ça se passe. Si vous discutez avec quelqu'un, vous pouvez, que le quelqu'un en question n'est pas en train de vous asséner quelque chose, mais en train de parler avec vous, vous pouvez vous construire vous pouvez l'aider à se construire lui-même cette raison-là. Je pense que la cause n'est pas perdue. D'ailleurs, si la cause était perdue, je serais retourné dans mon laboratoire et je serais juste en train de faire des calculs parce que c'est autrement plus agréable que de se battre contre des journalistes, ça c'est évident.
Oui, et parler à 2 ou 3 personnes qui savent que tu n'as pas d'intérêt à dire ce que tu dis. Je crois que ça c'est important.
Bonsoir. Vous avez parlé beaucoup de formation. Alors, je suis étudiant, donc je n'ai pas beaucoup d'expérience à ce niveau. De la formation. Mais on a fait une visite pas mal au CETIC avec le préparatoire de Mussolini. Et on a rencontré le directeur du CETIC qui fait la formation dans le nucléaire pour arriver à EDF, il me semble. Qui nous a dit qu'un neutron était positif.
Et ça devait être quelqu'un de très positif.
Quand on est notre point de vue, qui commence à faire une crise de psy, je pense. Donc vous parlez beaucoup de formation, mais qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y ait beaucoup de managers quand même dans la formation?
Beaucoup de
Managers qui dirigent les formations, que ce soit des managers et en fait pas des scientifiques ou des ingénieurs qui dirigent les formations.
Ah, mais là, si vous branchez là-dessus, on ne sera pas sorti à 11h. Hein. Ouais, je veux dire, enfin, moi je suis profondément hostile à la formation. Pour moi, un ingénieur, c'est d'abord quelqu'un qui a une formation scientifique et technique solide, qui a une pratique scientifique et technique solide, que ce soit une pratique de production, une pratique de recherche, une pratique de bureau d'études, et qui après peut évoluer vers d'autres domaines qui sont parfaitement respectables, mais qui sont tout à fait naturels. Et je veux dire, moi, j'ai pas de problème à ce qu'un ingénieur devienne un manager ou devienne un spécialiste de marketing. Je lui dis, quand il sort tout juste de l'école, qu'on lui presse le nez et qu'il y a du lait qui coule, c'est pas le moment pour qu'il aille expliquer aux autres comment on vend et comment on fabrique. Donc, moi, je pourrais être tout à fait clair. J'ai une hostilité viscérale à la fabrication d'ingénieurs plantes vertes. Pour moi, il faut se colter avec la réalité. Scolter avec la réalité, ça veut dire aussi aller la voir sur le terrain, ça veut dire... C'est pour ça que je disais que la recherche, pour moi, est une vraie formation, parce que c'est une formation où vous êtes en prise avec un problème qui n'est pas résolu. Et de la même manière, la formation par projet, c'est une vraie formation. Donc ça veut dire, moi, je pense qu'il faut, éviter deux écueils. Il faut éviter l'écueil de la formation complètement magistrale. Grosso modo, tout tombe du ciel, vous avez juste à digérer le truc, à polarder votre poly pour le jour de l'examen et l'oublier le jour d'après. Ça, c'est une extrême. L'autre extrême, c'est ce que j'appelle le storytelling. Prenez un triangle et causez-en avec vos voisins, quoi. Enfin bon, c'est... et entre les deux, ben, il faut construire justement une connaissance, une pratique, des choses qui sont basées à la fois sur des choses qui sont démontrées, puis sur des choses qui sont acquises par la pratique. Enfin, il n'y a pas très longtemps, je suis allé donner une conférence à une école à Saint-Étienne, qui est une école qui forme des ingénieurs par apprentissage. Moi, j'ai été formé exactement de l'autre côté, non pas par apprentissage. Je suis vraiment le pur produit du système français. Je veux dire, l'héritage du mandarinat chinois. Et je le rejette pas. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et riche et formateur. Mais les deux sont intéressants, riches et formateurs. Et ce qui fera qu'on aura une industrie qui relèvera la tête, parce que j'espère bien qu'elle va finir par le faire, c'est d'avoir un mélange de ces deux types de formations. À la fois une formation par apprentissage. C'est-à-dire, grosso modo, quand vous y réfléchissez, c'est l'héritage des tailleurs de pierre du Moyen-Âge. Tailleurs de pierre du Moyen-Âge, ils apprenaient à tailler les pierres, envoyaient un gens tailler les pierres. Et bien, si l'autre côté, c'est l'héritage des mandarins chinois qui apprenaient à faire des exercices extraordinairement compliqués, à l'époque, c'était pas des mathématiques, c'était une calligraphie tordue et des grands classiques, et bien, le mélange des deux, ça peut faire quelque chose qui est très performant. Donc, moi, c'est pas pour rien, quand j'ai accepté mon poste de haut-commissaire, j'avais mis un certain nombre de conditions, dont l'une était d'avoir une machine à café dans mon bureau, un privilège suprême. La deuxième, c'était de pas parler aux journalistes, pour les raisons que vous avez maintenant comprises. Et la troisième, c'était de garder une activité de recherche et d'enseignement. Parce que pour moi, c'est essentiel. L'avenir de ce pays, on le construira avec les gamins des écoles, avec ceux des collèges, avec ceux des lycées, avec les élèves dans les universités, dans les écoles. Et ça, c'est le boulot de tout le monde. C'est pas que le boulot des profs.
Pas mal de choses. Je pense que comme on est ici, si on veut faire travail utile, même c'est de créer des clubs scientifiques ou des cafés des sciences. Et ça, c'est une façon de toucher 20, 30 personnes. Et là, les scientifiques viennent. Quand on les invite, ils viennent. Même, c'est pas, évidemment, ils ne vont pas créer, c'est difficile pour eux de créer une activité, parce que souvent, ils sont trop pris. Par contre, je n'ai jamais eu de refus d'un scientifique quand je l'ai invité à café des sciences. C'est la première chose. Deuxième chose, là, c'est très frappant. Quand on fait de la science, vraiment, tout le monde vient. Mais c'est-à-dire que les cafés, moi j'organise un café d'essence dans une petite ville, hein, qui n'est pas spécialement intellectuelle, qui est invisible, une ancienne ville ouvrière. Peut-être les records de présence, ça a été sur le boson de Higgs et sur le satellite Planck. Les gens sont venus, mais ils sont venus, ils ont écouté, on a organisé ça de façon un peu avec 4 ou 5 intervenants, et il y a eu des. Il y a eu des questions, etc. Une autre chose qui passe assez vite, ce qui montre que. Alors, il faut bien faire la distinction entre science pure et technologie. Beaucoup des problèmes qu'on a, c'est la technologie. C'est justement, c'est l'exemple que je donne, le boson de Higgs, ça passe très très bien. Par contre, quand on parle des OGM, c'est beaucoup plus difficile. Et je pense qu'une des raisons, c'est que quand. Une technologie qui est lointaine, que les gens ne contrôlent pas, au fond, ils ne savent pas à quel sein se vouer. Est-ce qu'ils doivent se vouer à Marcel Kunz ou est-ce qu'ils doivent se vouer à un représentant de la Confédération paysanne qui est là par hasard? Ils ne savent pas trop. Quand les gens savent, par exemple, sur les technologies actuelles, téléphone portable, Internet, etc., les gens sont très à l'aise, ils contrôlent, je pense à Bagnole, ils contrôlent cette technologie. Donc ils sont leurs propres experts, vous ne pouvez pas leur raconter n'importe quoi sur le téléphone portable que ça explose tous les 8 jours. Ils savent bien que ce n'est pas vrai. Il y en a qui ont essayé, mais les gens, ils ont, ils voient bien. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir une analyse trop totalisante sur cette question. Il y a des choses auxquelles les gens sont sensibles, ils sont prêts à... Et puis d'autres choses où ils sont en situation d'inquiétude.
Oui, mais...
Et je crois que ça, il faut vraiment réfléchir comment faire. Personnellement, je diverge un peu là-dessus, mais je pense qu'en ce qui concerne les dangers du nucléaire et de la radioactivité, les grands responsables, c'est les spécialistes de la sûreté. De plus en plus, j'en suis convaincu. Puisque au fond, c'est leur boulot. Si ce n'était pas dangereux, ils gagneraient rien. Donc il faut que ce soit dangereux, il faut qu'il y ait des normes. Il ne faut pas que les normes soient trop élevées, parce que ça ne servira à rien, il faut mettre des normes. Vraiment, les gens disent, oh ben, moi j'ai reçu 5 fois la norme, je vais mourir demain. Si j'ai reçu 5 fois la norme, c'est comme si j'avais bu une bouteille de vin aujourd'hui. Bon, un peu de... Ouais, les normes sur l'alcool, les normes sur le tabac, les gens, ils comprennent très bien de quoi il s'agit. Voilà, juste une remarque.
Oui, alors, juste, ça me permet de rebondir aussi sur un point auquel je n'ai pas répondu tout à l'heure et qui est important aussi, c'est qu'il y a malheureusement des scientifiques qui jouent le... Qu'est-ce qui se passe ? Bon, je reprends. Quelque chose que j'ai pas, à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, c'est une remarque que faisait le monsieur tout en haut. Il y a quand même des scientifiques qui jouent un jeu de con. Enfin, faut quand même. J'ai jamais vu une étude de toxicologie qui terminait en disant il n'y a aucun danger. Et ça, c'est pour une raison toute simple, c'est que j'ai jamais vu les Danes souhaiter de voir arriver Noël plus tôt. Quoi. Enfin, c'est tout bête. Hein. Quand on vit avec, donc là, mais là, c'est une question d'éthique. Hein. Je veux dire, si vous êtes prêt à vendre n'importe quoi. Simplement parce que ça vous permet de remplir les fonds de votre laboratoire, c'est qu'il y a un vrai problème, il vaut mieux faire autre chose. Quoi. C'est pour moi, un scientifique qui fait ça, il y a un malaise. Mais bon, ça, c'est la conception que j'ai de la science. Alors, pour revenir à ce que disait, Hervé, si on prend les OGM, par exemple, si tu fais café et les OGM, ça va être pénible. Maintenant, si tu dis évolution des semences au travers des âges, des évolutions historiques, et que les gens vont pouvoir comprendre que, en fait, on sélectionne des espèces depuis des millénaires, que le blé qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à voir avec celui qu'on avait au Moyen-Âge, et qu'on met ça dans la continuité. Et là, ils arriveront peut-être à poser les questions sur les OGM, mais ils n'arriveront pas avec cette espèce de casque antipersonnel, le fusil et la baïonnette, en disant « il faut que j'aille pour fondre telle ou telle opinion sur les OGM ». Donc je pense que tu as tout à fait raison, il faut... Moi, mon idée de fond, c'est qu'il est vraiment important qu'on se... Comment je dirais ? Il faut qu'on se réapproprie la science et qu'on la réapprivoise. Et il y a des tas de choses qu'on peut comprendre et qu'on peut comprendre simplement. Puis il y a d'autres choses, bon, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est un vrai exercice. Hein, et je crois que ce que tu dis, le fait... Le boson de Higgs, il n'y a personne qui se dit j'ai absolument besoin d'avoir une opinion sur le boson de Higgs. Je ne dormirai pas si je n'ai pas une opinion sur le boson de Higgs. Je ne pourrai pas prendre mon repas du soir si le boson de Higgs m'est inconnu. Par contre, ben zut, on m'en a parlé, j'ai envie de savoir ce que c'est.
Mais on n'a rien compris.
Je t'ai expliqué pendant 6 mois.
j'ai pas dit que c'était facile.
C'est merveilleux. Les gens ont trouvé que c'était merveilleux quand même.
Moi, je trouve ça plutôt rassurant que les gens leur disent « on découvre une des briques élémentaires de la compréhension d'ensemble de l'existence de la matière », que les gens se disent « j'ai envie de savoir ce que c'est ». Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas pu leur expliquer de façon qu'ils comprennent, ça, je veux bien le croire. Encore que je pense...
C'est méchant.
Mais déjà, j'aimerais pas que les gens ne soient pas déçus. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un truc fantastique. Et au passage, on peut leur dire le boson de Higgs, il a été découvert au CERN. Le CERN, c'est quelque chose. Le boson de Higgs, c'est quelque chose qu'on avait prédit par la théorie avant de le découvrir par l'expérience. Le CERN, c'est quelque chose qu'on a compris après la Seconde Guerre mondiale, qu'on a construit après la Seconde Guerre mondiale, parce que vous avez des tas de pays qui se tapaient sur la gueule et qu'on s'est dit une manière de reconstruire la paix en Europe, c'était précisément de la reconstruire autour de la science. Que le fondateur du CERN, c'était un diplomate. Et, je veux dire, vous pouvez leur faire passer des tas de messages comme ça. Donc ils partiront, ils ne sauront peut-être pas ce que c'est que le boson de Higgs, mais par contre, ils auront compris comment on l'a découvert, peut-être d'une...
Les gens, ils ont bien aimé.
T'entends parler de... Moi,
j'ai une expérience, on a fait un café de science à Dijon pendant environ 5 ans. Et on a constaté que le café des sciences était un système à usage interne, c'est-à-dire que majoritairement, c'était des scientifiques qui venaient, donc on sortait pas du cercle.
Mais ça dépend peut-être des endroits, ça dépend des gens, je sais pas, moi j'ai jamais fait de café des sciences. Moi, chaque fois que j'ai parlé avec des gens, c'était pas dans des dans un contexte.
Vous avez des sciences en plein Grenoble, vous aurez que des gens qui en connaissent plus que l'orateur.
Ben oui.
Il faut faire un café d'essence à ma maison de campagne à Soucé-sur-Brionne. Je vais t'inviter. Là, il y a 139 habitants.
Des sciences à la Villeneuve, à Grenoble. Oui. Et là, il y a effectivement des gens qui savent bien que c'est pas facile. Mais ils ont envie d'écouter quelque chose de scientifique. Il y en a beaucoup plus qu'on ne croit.
Oui, un mot là-dessus sur c'était passionnant, mais on n'a rien compris. Je pense que c'est très profond cette affaire-là. Et ce qui est derrière, c'est la science du proche et la science du lointain. La science du lointain ne permet, que ce soit dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand, ne permet pas de brancher la réflexion. Enfin, ne permet pas de mettre en œuvre l'exercice de la pensée critique. Parce que c'est trop loin. On peut juste écouter, c'est une jolie histoire, et on l'écoute et on la reçoit comme un conte. Mais si vous preniez de...
Sauf que...
La vulgarisation, l'exercice de la pensée critique ne peut se faire que sur les objets proches. Quand on dit, comme je disais tout à l'heure, que les vins de Bordeaux, ça sera sur la Loire, et que les vins de Loire, ça sera en Cornouaille, ça, c'est quelque chose qui est proche. Et on rend concret le changement climatique. Donc, ce n'est pas du tout contradictoire. Et c'est très joli, la science du Big Bang, etc. etc. Et puis, on recolle sur les mythes, d'où on vient, et machin, etc. Et puis, on sort de la réponse que faisait Pierre Dac, qui était « je viens de chez moi et j'y retourne ». Donc là, bon, on a un autre discours, et c'est très joli. Mais je pense que c'est très vrai que ça ne permet pas de mettre en œuvre l'exercice de la pensée critique, ce qu'on voudrait.
À part que, justement, sur l'exemple du boson de Higgs, quand je te dis, si tu construis pour expliquer cette chose-là, la manière dont fonctionne le CERN, qu'est-ce que c'est ? Je veux dire, ça te pose des vraies questions de citoyen. Est-ce que je suis prêt à payer des millions pour découvrir le boson de Higgs ? C'est pas inintéressant comme question. Et là, tu peux à nouveau exercer le sens critique. Et puis quand même, regardons-nous en tant que scientifiques. Je veux dire, on a tous notre domaine de spécialité. Moi, la physique des particules, j'en ai appris juste ce qui suffisait pour pouvoir comprendre les questions que se posent les gens du commissariat à l'énergie atomique. Je veux dire, le nombre de pattes du gluon, ça me laisse de marbre, ça. C'est pas ça qui m'intéresse en priori. En tant que scientifique, il y a d'autres choses qui m'intéressent. Moi, je sais, l'atome est au-dessus. Les gens de la physique des particules, c'est l'atome est en dessous. Bon, je veux dire, on a tous des centres d'intérêt qui sont plus ou moins ciblés. Maintenant, après, ça m'intéresse de savoir comment ils ont fait ça, pourquoi ils l'ont fait, quelles sont les questions qui se posent maintenant. Le blues du post-boson de Higgs, vous allez faire quoi maintenant? C'est une question qui est intéressante, ça.
Il y a quand même quelque chose qui a changé autour des années 60. Or, je reprends une expérience vécue. En 1957-56, le CEA construisait G1 à Barcoule. Il se trouve qu'on habitait pas très loin de Barcoule. Et mon père nous emmenait voir la construction de G1 en disant c'est un truc extraordinaire. Bon, c'était 10 ans après Hiroshima et Nagasaki. Donc, il n'était pas question de parler de bombe. Il était question de parler d'un réacteur qui se construisait, etc. Et puis, passé les années 60, d'un seul coup, on a vu arriver le côté, je dirais dans les années 65-70, le côté anti-nucléaire qui s'est développé considérablement en utilisant tous les arguments possibles et imaginables, depuis le risque des irradiations, le risque d'explosion des centrales nucléaires, la négation de l'utilité du nucléaire pacifique, etc. Et c'est allé de pair avec les OGM, alors qu'on sortait de la révolution verte agricole qui avait permis justement de nourrir l'humanité jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire que l'hybridation qu'on en faisait sur du vivant depuis bien, 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 bien longtemps, et là on avait accéléré. Et puis on voit les choses qui se passent comme ça. Et je dirais, pour rejoindre quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et techniques fait d'excellents rapports. Sauf que, ils se plaignent, les politiques de l'Église pas. Et les politiques décident de la loi de transition énergétique, ils n'ont pris aucunement connaissance de ce que l'OPEC a écrit.
De ce qui...
Donc, il y a quand même un problème qui s'est passé dans notre société, parce qu'on nous a ressorti tout un tas de choses dans les années 65-70, et qui a envahi la société, les médias, les écrans de télé, parce que je suis d'accord avec vous, la télé lobotomise complètement. On est passif devant une télé. On ne réfléchit plus, on regarde. Voilà. Et ça, il y a quand même un phénomène sociologique que je ne m'explique pas bien.
Non mais, d'accord, enfin c'est... plusieurs choses. Je pense que la communauté scientifique n'est pas tout à fait vierge de reproches là-dedans. Hein. Moi, je vais vous citer un exemple que je trouve absolument admirable, qui est l'exemple d'Alfred Kastler, qui était un très grand scientifique. Alfred Kastler, on lui avait demandé un jour ce qu'il pensait de l'énergie nucléaire. Alfred Kastler n'était pas du tout hostile à l'énergie nucléaire. On avait demandé ce qu'Alfred Kastler pensait de l'énergie nucléaire. Il avait répondu au journaliste qui lui tendait le micro. Il a dit « Je ne vous le dirai pas. » Je ne vous le dirai pas parce que je suis prix Nobel de physique et que ça donnerait un poids, à mon avis, qui serait très largement supérieur aux compétences qui me permettent de le donner. Donc déjà, de dire, écoutez, ce sujet-là, je ne sais pas, je vais me renseigner, c'est pas mal. La deuxième chose, c'est mon ami Bernard Casta qui m'a fait une remarque un jour et qui porte vraiment à réfléchir. C'est quand même un des problèmes du nucléaire. Ça a été quand même de dire de manière constante et méthodique aux gens qui pouvaient avoir une inquiétude ou justifiée ou pas, vous inquiétez pas, on a pensé à tout. Ce que me disait Bernard Casta, c'est si tes gosses, alors moi j'ai pas de gosses, mais si tes gosses te disent t'inquiète pas, ma part, on a pensé à tout, est-ce que ça te rassure? Ça a juste l'effet inverse. On a pensé à tout, ça veut dire j'ai pas regardé ça de très près. Alors après, c'est venu se plaquer là-dessus, le fait d'avoir la peur qui fait peur aux peureux. Et je pense que l'espèce de mystique de la transparence aide pas à ça. C'est-à-dire, en gros, quand on dit « je dois être transparent », c'est « je pose une question, je sais pas quelle est la réponse, mais c'est sûrement très grave ». Bon, évidemment, là, ça peut durer un moment. Mais encore une fois, en parlant des médias qui ont vraiment complètement biaisé le système... Il y a une très jolie phrase de Jean Rostand. Il disait « Avec les moyens modernes de communication, les gens ne sont pas devenus plus bêtes, c'est la bêtise qui est devenue plus sonore. » Et je crois que c'est exactement ça. Les gens ne sont pas plus bêtes, mais leur capacité à raisonner est écrantée. Et le pire, c'est que les gens qui ont envie, quand on a envie de parler avec les gens, on s'imagine qu'il faut passer par cet écran pour leur faire passer le message. Je dis « C'est une erreur. » C'est une erreur. Il ne faut pas passer par cet écran. Il faut aller directement, il faut court-circuiter l'écran et aller directement à la base des gens. Je vais vous donner un autre exemple. Un exemple qui est complètement enthousiasmant. Ça fait la troisième année qu'on fait ça à l'Académie des sciences. Ça s'appelle... Alors, ça a l'air d'être complètement le bidule de com, quoi. Le truc où on pourrait s'imaginer que ça filerait des petits boutons. Ça s'appelle « Speed Science ». Imaginez que vous avez le speed dating, où vous allez dans un café, vous voyez quelqu'un, vous discutez pendant 5 minutes, et après, paf, je pars ou je pars pas avec, quoi. Le speed science qui a été mis en place à l'Académie des sciences, moi, je trouve que c'est une idée... au début, elle me semblait bizarre, et en fait, elle est vraiment intéressante. C'est la revue Phosphore, je crois, qui sélectionne une centaine d'étudiants. C'est des étudiants qui sont... grosso modo, dans les dernières classes du lycée et les premières classes de l'université, c'est plutôt, en gros, lycée, et puis, enfin, disons, bac plus ou moins 2, quoi, on va dire ça comme ça. Et ces étudiants bac plus ou moins 2, ceux qui sont le plus motivés, qui expliquent pourquoi ils ont envie de le faire, l'Académie des sciences leur paye le voyage pour passer une journée à l'Académie des sciences. Alors, le matin, ils sont reçus sous la coupole, ce qui est toujours un petit peu impressionnant. Et puis pose des questions. Alors, je ne sais pas si on va le refaire, parce que la dernière fois, ils ont posé des questions qui avaient tellement embarrassé la secrétaire perpétuelle que je ne suis pas sûr qu'elle ait envie de continuer. Mais enfin, bon. C'était assez cocasse, d'ailleurs, parce qu'on avait des gamins qui demandaient « Ouais, alors, vous continuez à travailler une fois que vous êtes élu ?» Et alors, la meilleure, c'était... ça va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez. La meilleure, c'était « Ouais, bon, d'accord, vous écrivez des rapports, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui les lit ?» Je crois que la coupole n'avait jamais entendu des éclats de rire aussi sonores. Mais bon, après cet exercice-là, l'après-midi, il y a l'exercice propre du science, du speed science. Il y a une, bon, généralement, il y a une quarantaine d'académiciens qui ont accepté de le faire partie, qui se mettent autour d'une table, enfin, qui ont chacun une table de bistrot devant eux, et puis les gamins, ils passent de table de bistrot en table de bistrot, ils ont 10 minutes pour discuter avec l'académicien de la science qu'il fait. Et puis au bout de 10 minutes, boum, coup de gong, c'est quelqu'un d'autre qui passe, boum, coup de gong, c'est quelqu'un d'autre qui passe. Alors on peut se dire, ça a l'air complètement artificiel, il n'empêche que pendant 10 minutes, ces gosses, ils sont capables de vous demander ce que vous faites, de dire c'est quoi la science que vous pratiquez, de vous dire ce qu'ils ont envie de faire eux, parce qu'ils ont écrit pour pouvoir faire ça, et vous sortez de ça complètement lessivé. Je veux dire, moi j'y suis resté de 2h de l'après-midi à 8h le soir, 6h en discontinu, sans discontinuer, vous sortez, vous êtes aphone. Qu'est-ce que vous voyez dehors ? Des gosses qui sont en train de discuter entre eux en disant « Ah ouais, moi j'ai causé avec celui-là, il était vachement bien. Ah ben moi, celui-là, il était quand même mieux. » En fait, tu rigoles, c'est quand même la physique, c'est quand même vachement moins intéressant que la biologie. Bon, ouais. Je veux bien dire qu'ils aient été présélectionnés, mais ça veut dire quand on prend la peine d'aller voir les gens et pas simplement d'aller faire une émission sur Arte, eh ben on voit des gens qui vraiment ont envie de comprendre la science. Donc nous ne nous trompons pas de cible et nous ne nous trompons pas de moyens. Évidemment, c'est. Moi, je dis toujours à mes collègues de l'Académie qui tiennent absolument à écrire dans Le Monde, je leur dis, vous perdez votre temps, allez écrire dans West France si vous voulez écrire dans un journal. Un truc où il y a des informations importantes, du style quand il y a la prochaine panne d'électricité, prochaine coupure de courant. Parce que les gens, ils vont chercher des choses dont ils ont besoin. Ils vont pas aller chercher un blabla d'une intelligentsia de seconde zone. Donc, si vous voulez écrire dans les journaux, écrivez dans West France, dans la montagne, dans l'Est républicain, dans le Dauphiné libéré. Hein? Oui, ou le bien public à Dijon. Alors évidemment, pour des intellectuels parisiens, c'est oh là là, mon Dieu, quelle horreur, vous allez écrire dans ces journaux de province. À part que vous allez juste vous adresser à des gens, quand ils lisent un article, ils se demandent pas où se trouve l'idée que j'ai déjà.
Oui, moi je voudrais mettre l'accent sur quelque chose de différent, c'est l'évolution et la composition de la société. En fait, quelqu'un parlait de la femme glorieuse. Et enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez une augmentation de productivité absolument considérable, ce qui fait que 80% des gens actuellement ne sont pas exposés dans leur profession à la science et considèrent que ça ne sert à rien de manière inconsciente en réalité. C'est un peu la fable des membres de l'estomac. De la même manière, les agriculteurs ne sont plus considérés parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Donc politiquement, quand vous avez 80 ou 90% de la population qui n'a jamais été réellement exposée dans sa profession à la science, ce qui n'était pas le cas à mon époque, hein, je veux dire, j'ai fait des 30 glorieuses, c'est ce que c'est. Donc, ça me paraît quand même quelque chose d'extrêmement important. Ça peut se retourner d'ailleurs, je le demande même si le vent n'est pas en train de tourner, parce que les difficultés s'accentuent. Mais ça justifie d'autant plus que, effectivement, à la base, il y a une éducation solide à la science. Je pense que l'éducation sociologique, on est tout simplement les agriculteurs, quelque chose comme les agriculteurs, pas assez nombreux pour qu'on le considère.
Oui, ben, ça c'est autre chose. De considérer les scientifiques et considérer la science, c'est autre chose. Moi je suis assez profondément hostile, et Dieu sait que je suis un scientifique passionné, pour que vous n'auriez pas remarqué. Mais le réflexe corporatiste consistant à dire la science n'est pas assez financée, n'est pas assez truc, n'est pas assez chose, je veux dire, pour moi, c'est pas ça le problème. Le vrai problème, il est ailleurs, c'est la position de la science dans la société. Je veux dire, faut pas mettre les choses à l'envers. C'est pas, je vais d'abord réussir à avoir des sous, et puis après, je m'occuperai d'expliquer ce que j'en fais. Maintenant, les gens sont pas forcément, je sais pas si je serais d'accord avec vous en disant que les gens sont pas exposés à la science, ils sont pas forcément exposés aux scientifiques, mais leur vie est imprégnée de science. Elle est imprégnée de science et de technologie. Le problème, c'est encore une fois, il faut la réenchanter, il faut se la réapproprier. Parce que, je veux dire, quand quelqu'un appuie sur un bouton et qu'il a de l'électricité, plus personne lui explique que c'est pas normal qu'on appuie sur un bouton d'avoir de l'électricité. Et ben oui, il s'en fout, mais il s'est posé la question. Mais l'éducation, c'est d'abord ça. L'éducation, c'est d'apprendre à se poser des questions sur des choses évidentes. C'est de considérer que rien va de soi. C'est comme ça qu'on s'éduque, qu'on éduque l'esprit critique. Et la science est idéale pour ça. Donc c'est pour ça que pour moi, la question, c'est une question qui est une question pour la science, pour les scientifiques, pour les citoyens. C'est une espèce d'interrogation profonde qu'on doit avoir, et c'est ça l'esprit critique. Donc la science est partout autour de nous, et on s'en rend plus compte, on la considère comme acquise. Tous les bienfaits qu'elle nous a apportés, bah évidemment, c'est normal. L'état de nature chez l'homme, c'est de mourir à 30 ans à la chasse, et chez la femme, de mourir à 25 ans en couche. Maintenant, l'espérance de vie doit être grosso modo de 80 ans, plus ou moins un ou trois ans, suivant les hommes et les femmes, mais c'est normal, c'est la médecine qui nous soigne. Quand vous demandez aux gens, quand vous avez des sondages, est-ce que vous aimez la recherche, les gens, alors les chercheurs adorent ça, ils disent, mais c'est pas vrai, les gens n'ont pas des affections vis-à-vis de la science, quand on leur demande s'ils aiment la recherche, ils répondent tous qu'ils aiment la recherche. Il y a une écrasante majorité des Français qui aiment la recherche, à part qu'ils ont juste oublié que pour les Français, la recherche, c'est la recherche médicale. Bon, c'est ça. Donc, je veux dire, il faut vraiment qu'on arrête de tricher, qu'on se cache pas derrière les Français aiment la recherche. C'est pas vrai, ils la connaissent pas. On doit réapprendre ce que c'est que la science partout où elle est.
Oui, il est maintenant 10h20. Alors, peut-être encore quelques questions. J'en ai au moins trois déjà qui lèvent la main. Alors, des questions courtes. Et monsieur le très haut commissaire, des réponses courtes également, s'il vous
plaît. Ah, ça, je ne suis pas sûr de savoir faire, hein, mais enfin
bon.
Oui,
moi je suis un chercheur dans le directeur ingénieur pour renouvelable. J'ai des messages un peu optimistes des fois qui m'arrivent, mais globalement relativement pessimistes. Un message optimiste, c'est que la communauté des enseignants est relativement au courant de comment fonctionne l'apprentissage. Dans notre école, je pense que c'est très courant, on fait beaucoup de projets, on a des cours d'éthique. Je ne suis pas sûr que ce soit les préférés. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on propose aux gens de participer à des choses relativement compliquées. Dans mon laboratoire, il y a un groupe, des chercheurs qui ont aidé un groupe d'étudiants pour leur projet de lycée, et ils ont eu un premier prix au tournage général. Moi, j'ai été voir leur projet, c'est super. Hein. Il y a un bel amphithéâtre laboratoire. C'est fantastique, mais en fait, pour qu'il y ait 3 ou 4 élèves qui construisent quelque chose de merveilleux, en fait, il y a une dizaine de chercheurs qui ont contribué, en fait, c'est plusieurs équivalents en temps plein qui ont travaillé sur le sujet. Si vous observez aujourd'hui qu'il n'y a pas d'enseignants-chercheurs qui pratiquent apparemment dans la salle, c'est qu'en fait, les gens sont tout à fait au courant que c'est extrêmement coûteux de former les gens, et mon université n'a pas beaucoup d'argent. La tienne,
monsieur. Ah, on enseigne dans la même école, alors. Ouais.
Zéro recrutement pendant 4 ans. Donc, vous voyez un petit peu la différence entre ce que ici, évidemment, on a un public extrêmement sensibilisé. Les gens, on l'a déjà dit, les gens qui viennent aux universités secondaires, en fait, tout le monde sait qu'on ne va pas apprendre grand-chose. Enfin, désolé, je suis orateur demain, je ne peux rien vous dire, hein. Vous connaissez déjà tout sur le tutoriel. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est quand même très, très coûteux d'apporter les informations, de haut niveau. Si on veut, en plus, au-delà des savoirs, construire des savoir-faire, pour que les gens puissent utiliser ces choses-là et qu'ils n'ont pas un esprit critique, c'est très très coûteux. Donc je ne sais pas, est-ce que vous pensez qu'en 2017, il y a quelqu'un qui va se faire élire en disant projet national, tout le monde fait de la science, on triple le budget de formation, plutôt que de dire on va vider les lycées pour économiser de l'argent, on va interdire leur doublement à tous les niveaux et donner le baccalauréat à tout le monde. Je suis là un peu pessimiste par rapport à ça, donc j'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de réponses là-dessus. Mais...
Je peux te donner ma réponse en off, mais ceci dit, quand même, encore une fois, on pratique la science, on pratique la formation au niveau d'école d'ingénieurs, au niveau de premier, deuxième, troisième cycle universitaire. C'est pas que ça. Je veux dire, on a eu une séance à l'Académie des sciences il n'y a pas longtemps. On a fait venir des gens qui avaient des étudiants qui avaient participé au tournoi international de physique. C'est un exercice qui était assez amusant, et la manip qu'ils ont expliqué au tournoi, c'était tellement bien qu'on les a fait venir pour venir nous en parler, parce que c'était vraiment super. C'est une manip qu'on peut faire à Felma, hein. C'est tu prends une bouteille d'eau, tu la remplis à moitié, et cette bouteille d'eau, tu la fais rouler sur la table. Alors je ne vais pas la faire là tout de suite. Vous prenez une bouteille d'eau remplie moitié sur la table, vous la faites rouler avec différentes conditions initiales, vous tapez plus ou moins vite, et vous apercevez qu'au lieu de rouler de manière continue, elle roule de manière aussi, avec une vitesse oscillante. Parce qu'en fait, vous avez un mouvement qui est en train de se mettre à l'intérieur de la bouteille, c'est de la mécanique toute simple, c'est des trucs, le coût de ça, c'est une bouteille d'eau, et encore, vous pouvez même l'acheter à moitié vide, hein. Je veux dire, avec ça... Hein, mais oui, mais ça veut dire... ce que je veux simplement dire, c'est que on peut faire des choses pas chères. Mais on est là pour ça. Adrien, on est juste là pour ça. C'est, on est là pour. Je veux dire, moi, pendant, tu sais bien que pendant 20 ans, j'ai dû donner chaque année 3 ou 4 sujets de première année, tous plus farfelus les uns que les autres, justement pour que les étudiants apprennent à scolter avec un truc dont le prof qui leur donnait le sujet n'avait pas la solution. Je veux dire, c'est aussi ça, former les gens. C'est pas de leur dire de trouver le résultat d'un truc que je sais déjà. En plus, c'est chiant de poser une question où tu as déjà la réponse. Hein?
Je me souviens d'expériences intéressantes dans mon laboratoire où les étudiants devaient larguer une boule de billard.
Il est en train de révéler des secrets de famille, là.
Je ne sais pas qui a imaginé ça comme enseignant.
De regarder, oui, en combien de, quelle était la taille des morceaux d'un carreau d'une vitre, suivant qu'en laissant tomber une boule de pétanque de différentes hauteurs, c'est-à-dire en amener une énergie cinétique différente. Et alors on peut faire des tas de manips intéressantes, et ce qui ne va pas vous dire, parce que c'est la vraie histoire, c'est que fondamentalement, les manips étaient absolument pas reproductibles, parce que les carreaux n'étaient pas correctement recuits, et que c'était les contraintes internes dans le carreau qui contrôlaient l'ensemble. Je ne le savais pas au départ, il nous a fallu une vingtaine de carreaux cassés pour s'en rendre compte, mais les étudiants n'ont pas... Les étudiants ont quand même constaté que quand on lâchait la balle de plus haut, les morceaux étaient plus petits, mais que la reproductibilité n'était pas là. Bon, moi, je dis des étudiants qui se sont déjà dit, faut que je fasse 3 fois la manip pour savoir si le résultat que j'ai obtenu, ben, est-ce qu'il est fiable. Moi, je maintiens que ce sera des meilleurs citoyens.
Oui, alors, moi, après toutes ces discussions, là, je me demande s'il n'y a pas une suggestion qu'on pourrait faire de manière générale aux scientifiques. C'est qu'ils s'engagent en politique.
Je vais... Ça peut demander une réponse, mais je dirais qu'il faut que les scientifiques s'engagent dans la société à la manière dont ils pensent être utiles. C'est pas la même chose. Il faut qu'ils s'engagent dans la société à la manière dont ils pensent être utiles. Je veux dire, moi j'estime, j'ai essayé de m'engager en étant conseiller. Je ne suis pas convaincu que je suis écouté, mais je me dis, mon travail, c'est d'essayer avec un maximum de franchise de dire aux gens qui décident, quand je pense, et en l'argumentant, qu'il y a des décisions qui sont bonnes et des décisions qui ne sont pas bonnes. Il y a d'autres manières, de s'impliquer dans la société. Souvent, le climat s'implique d'une manière différente. Fondamentalement, on a tous le même objectif, qui est que pour le bien de notre société, on essaye de rendre les décisions les plus rationnelles possibles. Maintenant, il y a plusieurs manières de le faire. Et je pense qu'effectivement, on peut imaginer que ce soit de s'engager dans la politique qui permette de le faire. Il faut se sentir la fibre pour le faire, ça. Mais pour moi, c'est tout aussi noble de s'engager dans Sauvons le climat ou de s'engager à aller contribuer à la formation des gosses dans une école ou de s'engager comme au commissaire. Mais bon sang, ne pas rester sur un siège et attendre que les choses se fassent à notre place. Quoi.
Merci pour ces encouragements. Une dernière question peut-être. Alors peut-être deux.
Alors. Oui, bonjour. Ça devrait être très court, je vais descendre un peu sur terre. Là, je tiens le bouquin de CLC, là. Moi, je trouve bien. Expliquez-moi pourquoi tous les politiques qui lisent ça ne le comprennent pas.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que je mets ça sur leur bureau. Et que mettre quelque chose sur le bureau d'un politique, c'est un exercice qui n'est pas facile. Et je vais vous dire pourquoi c'est pas facile. C'est qu'il est très rare de rencontrer un politique qui vous répond autre chose, qui a une question qui se pose, va vous répondre qu'est-ce que je peux faire. Généralement, il va vous dire qu'est-ce que je peux dire. Donc si vous voulez toucher un politique, ça veut dire qu'il faut que vous touchiez les conseillers du politique. Alors là, vous avez deux cas de figure où il s'est entouré d'une bande de conseillers qui sont des brels, ça existe. Où il y a des bons conseillers, ça existe aussi. Un bon conseiller, c'est quelqu'un qui est capable d'écouter, qui est capable de prendre le document et qui est capable de le mettre sur le bureau du ministre au moment où le ministre est en état de pouvoir le recevoir et d'en faire quelque chose. J'y peux rien, on peut se dire que c'est pénible, que je préférerais 100 fois lui mettre sous le nez et lui dire « bon, tant que vous n'aurez pas dit ça, je ne sortirai pas ». C'est pas la bonne méthode. La méthode qui me semble la plus efficace, c'est de se dire, jusqu'à plus en plus informer, les politiques qu'on a, ils sont légitimes par le fait qu'ils ont été élus. En conséquence de quoi, si on veut leur faire passer un message, il faut leur faire passer un message au moment où ils sont en état de le recevoir. Donc ce que je vous dis, moi, c'est que ce que fait Sauvons le Climat, et ça m'est arrivé plusieurs fois, pas plus tard qu'il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, c'est éventuellement de le remettre à ma sauce, c'est éventuel parce que quand même, quand je donne un avis, je donne un avis avec lequel je suis au moins en accord moi-même. Je suis pas forcément toujours d'accord avec Sauvons le Climat. Je suis très souvent d'accord avec Sauvons le Climat. Et j'utilise très souvent les services de Sauvons le Climat en leur disant qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel sujet. Et je mets ça sur la table du politique par le circuit qui me permet de l'amener sur cette table. Le circuit qui me permet de l'amener sur la table d'un journaliste, je ne sais pas faire. Je ne sais pas quel est le circuit, je ne sais pas comment fonctionne le cerveau d'un journaliste. Je ne sais pas. Et quand par hasard il y en a un bien, il disparaît. Quoi, donc,
sans compter que finalement un politique ne cherche pas des réponses à des questions scientifiques, mais recherche des électeurs.
Mais attendez, quand j'ai choisi de donner cette conférence où je parlais du politique et de l'industriel, c'est juste exactement pareil. Je veux dire, faire passer une information technique à un grand capitaine de l'industrie, si vous n'arrivez pas avec l'information au bon moment, qui est posée sur le bon bureau par la bonne personne, vous perdez votre temps, aussi solide que puisse être votre argumentation scientifique. Donc ça veut dire qu'il faut encore aussi avoir juste la patience de trouver le chemin pour l'amener. Et puis ça a merdé une fois, et ben on le refait une deuxième fois, et puis une troisième, et puis à un moment ça finira par marcher.
Une dernière question.
Une question d'un commentaire. En fait, nous sommes tous des amoureux de la science, en fait, de la science en vérité. On a parlé de jeunes qui voudraient éduquer. Moi, je crois que la meilleure façon, c'est de demander de regarder. Que les jeunes regardent ce qui se passe autour d'eux, ils se posent des questions. Souvent, ils passent autour de tout, sans savoir ce qu'ils voient, que ce soit le nuage, le ciel, un ciel, l'eau qui tombe, la goutte de lait qui tombe, de la boîte de lait, etc. Il y a plein de trucs qui sont intéressants, mais leur faire.
Oui, enfin, je connais plein de vieux qui sont comme ça aussi. Hein. Je veux dire, alors là, il y a un truc qui me semble à peu près invariant par translation de ce côté-là. Moi, à chaque fois que j'avais des collègues qui me disaient le niveau baisse, je leur disais que c'était leur vue qui baissait. Les étudiants ne savent pas la même chose. Ils évoluent, il y a d'autres choses qui devraient... Mais où je bondis, moi, c'est quand je vous ai dit tout à l'heure, il y a des limites. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut ne pas savoir apprendre plus tard, mais si vous n'apprenez pas à raisonner à l'école primaire et au collège, c'est là qu'il y a un vrai malaise. Je veux dire, ce qui est essentiel dans la formation des jeunes, comme dans la formation d'un adulte d'ailleurs, c'est d'apprendre à raisonner. Je veux dire, c'est beaucoup plus important que de savoir le contenu de ce qu'ils savent ou de ce qu'ils ne savent pas.
Bien, on va peut-être arrêter là les questions. Souhaitez-vous faire une conclusion générale ? Merci. Merci. Vous arrêtez là, non, monsieur Bien ?
Voilà, c'est bon.
Donc on arrête là ?
Oui, oui.
Pas de conclusion de plus. Donc je vous remercie. Déjà, on a vu quand même... Ah. Demain matin, 8h30 ?
Pour les participants à l'université.
Pour les participants à l'université d'été, demain matin, 8h30. Et oui, demain matin on travaille. Voilà. Donc on va remercier encore Yves Bréchet pour cette conférence.
Merci.